RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique avec Frédéric Rivière et avec notre invité Bernard Debré, ancien ministre, député Les Républicains. Je vous le disais pendant cette émission, vous êtes un grand professeur de médecine, c'est vous qui avez opéré François Mitterrand.
Entre autres,
bien sûr, mais bon, on s'en souvient. Donc je vais vous raconter une histoire de médecin, puisqu'on n'arrive pas à se comprendre sur cette idée de recomposition politique. Enfin, quand je dis on n'arrive pas à se comprendre, c'est-à-dire qu'on entre effectivement dans ce nouveau monde de recomposition, la gauche, la droite, est-ce que ça veut dire quelque chose ? On voit qu'il y a de la résistance à l'extrême gauche et à droite. Quand j'ai été voir un médecin un jour qui m'a fait un traitement auquel je ne comprenais rien, je lui ai dit « mais vous êtes alléopathe ou homéopathe ?» Il m'a répondu « je prends ce qui marche dans l'allopathie et l'homéopathie ». Est-ce qu'on ne devrait pas se dire la même chose de la
politique ? Vous avez tout à fait raison. Dans l'homéopathie, rien ne marche.
C'est pas vrai.
Mais attendez, si, c'est complètement placebo.
Non, c'est pas vrai.
C'est complètement placebo. Mais si, mais ça a été vu par toutes les académies. Je vais me mettre avec tout le monde.
Mais alors, non, vous si voyez, vous, si vous, non, vous,
si vous prolongez
la ligne, qu'est-ce qui est l'homéopathie en politique alors ?
Il n'y a pas d'homéopathie en politique. Il y a des mensonges. Je crois que nous avons un mandat du peuple, nous les élus. Nous, les élus, de quelle que soit leur origine et leur appartenance, nous avons un mandat du peuple. Nous sommes élus sur un certain nombre de valeurs, sur un programme. Les gens viennent nous voir et nous acceptent et nous élisent. La plus grande trahison, ça serait de leur dire, ben écoutez, vous m'avez élu, oui, maintenant il y a une recomposition, je vais un petit peu vers Monsieur Emmanuel Macron. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord sur tout, je sais que je vous ai demandé à voter contre lui, il fallait me suivre quand vous avez voté contre lui. 20% des Français, au minimum. Mais on n'est pas là pour trahir, on est là pour faire marcher notre pays en fonction de nos valeurs. Si nous avons un nombre suffisant d'élus, on pourra demander qu'il applique notre programme. S'il n'y en a pas un nombre suffisant, nous serons là, et je vous garantis, moi je n'y serai pas parce que je veux céder la place aux jeunes, mais ceux qui y seront à ma place voteront ou ne voteront pas en fonction de leur éthique.
Éric Ciotti, secrétaire général adjoint des Républicains, considère qu'Emmanuel Macron essaye, je le cite, de détruire votre parti, mais aussi le PS d'ailleurs, en essayant de faire des petits débauchages. Et il ajoute, nous, il ne nous détruira pas parce que on a une colonne vertébrale, des convictions et des valeurs. Vous pensez, d'une part, qu'en effet, Emmanuel Macron essaye de vous détruire, et d'autre part, qu'en effet, il n'y parviendra pas?
Frédéric Rivière, écoutez, un homme qui est à la tête de l'État, à la tête d'un parti, parce qu'En Marche c'est un parti politique, qu'on le veuille ou non. La preuve, il va présenter 577 candidats et un président, une présidente du parti, qui était quand même l'adjointe et l'associée de Martine Aubry, qui a créé les 35 heures, faut pas non plus...
Elle a travaillé avec Alain Juppé aussi, je crois.
Mais peu importe, elle était quand même la responsable des 35 heures, et elle est fondamentalement à gauche. Très bien. Alors moi je veux bien qu'on mette de la pommade partout pour dire on ripolline et il n'y a plus de droite, plus de gauche. Il y a quand même des valeurs de droite et de gauche. Mmh. On peut de temps en temps se retrouver sur un certain nombre de projets, de programmes, de lois. Et il faudra qu'on se retrouve pour notre pays. Et comprenez bien, si on vous dit ce que vous êtes en train de défendre, c'est pas bon pour le pays, je vois pas pourquoi on fait de la politique.
Mais vous n'avez pas envie de l'aider à être un peu de droite, Emmanuel Macron ?
Je crois pas qu'il cherche qu'on l'aide. Il cherche, et on l'a dit, à débaucher des gens pour faire exploser
pour tuer la droite,
la droite et la gauche. Il a déjà tué la gauche, parce qu'il vient de gauche quand même. C'est pas un homme, un ovni qui... Il est de gauche, il vient de gauche, il a des soutiens de gauche. Regardez. C'était
terrifiant,
c'était épouvantable. Ce débauchage et ce...
En l'occurrence, c'est Emmanuel Valls qui va vers Emmanuel Macron, c'est pas...
Mais bien sûr, mais...
Ils n'en veulent pas, là.
En tendant les mains, en disant, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de soupe, parce que je ne veux pas rester tout seul dans mon coin. Effectivement. Ouais. Enfin, alors, d'ailleurs, Emmanuel Macron, dans son film que j'ai regardé hier, il a dit, le traître, c'est Emmanuel Valls. Il l'a dit dans son film. le traître, c'est pas moi, c'est Manuel Valls.
Alors, on revient chez vous un instant, les Républicains, parce que sur ces débauchages ou sur ces appétits nouveaux qui s'expriment chez un certain nombre d'élus républicains, on va écouter ce qu'a dit aujourd'hui François Baroin, qui va conduire donc la campagne
électorale. Oui.
On l'écoute et on y revient.
Ceux qui choisissent Emmanuel Macron, on est dans un pays libre, le feront naturellement et ils seront en marche, mais ils ne seront plus les Républicains,
ça veut dire...
c'est normal.
Vous êtes d'accord avec cette idée? C'est-à-dire si on fait la démarche de se présenter aux législatives sous l'étiquette République en marche, il faut quitter et on est exclu éventuellement
Excusez-moi,
du Républicain.
En marche vient de le dire. On va pas.
En marche dit on demande pas de quitter le parti. On demande de s'inscrire sous notre étiquette.
Oui. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, on
à
sera plus...
il faut siéger dans le groupe.
Soyons clairs, les Français ont besoin de clarté. Pendant toute cette élection présidentielle, il n'y a pas eu de clarté. Il n'y a pas eu d'exposition de programme. Il n'y a rien eu. On ne va pas élire quelqu'un parce qu'il est sympathique, rieur,
Ils ont élu quelqu'un qui n'était pas toujours clair, le fameux « en même temps ».
Mais oui,
en même temps,
ben voilà.
La droite, en même temps la gauche.
Mais nous serons à notre place pour faire aboutir un certain nombre d'idées. Et si ça lui convient, il pourra les prendre à sa charge. Et s'il a des idées qui nous conviennent, on les votera.
Alors justement, sur la réforme du Code du travail, puisque c'est une des mesures qu'il veut faire dès son arrivée, par ordonnance d'ailleurs... donner de la souplesse donc aux entreprises pour licencier et faciliter les embauches, ça s'appelle flex sécurité. Est-ce que la droite est en accord avec cela?
Écoutez, ça fera une... Bien sûr, c'était dans le programme de la droite. Peut-être pas tout sur si vous n'avez pas trouvé, si vous n'avez pas accepté deux emplois, vous n'avez plus, etc. C'est très dur. Mais je voudrais simplement attirer votre attention, les ordonnances. C'est pas le président de la République qui dit « je prends des ordonnances ». Il faut que ces ordonnances soient acceptées par l'Assemblée nationale. Non seulement qu'elles soient acceptées, mais une fois qu'elles sont écrites et réalisées, il faut qu'elles soient votées par l'Assemblée nationale. Donc, quand on dit « je veux des ordonnances », tu veux avec quelle majorité?
Alors, il y a une majorité, bien évidemment.
Ah ben voilà. Et donc vous voyez qu'en réalité, dans la 5e République...
Si vous, s'il n'en a pas, vous y opposerez pas à cette réforme du Code du travail?
Mais s'il nous présente, parce que normalement, il doit demander l'habilitation pour un certain nombre de lois. Et donc, cette loi, il va la détailler. Je ne vois pas pourquoi, s'il fait ce que nous avons demandé, nous voterions contre. Je lui souhaite bien du plaisir avec sa majorité, entre guillemets, de gauche, qui a été forcée d'utiliser le 49-3 pour faire une mini-réforme du Code du travail, à cause de...
La mobilisation dans la rue aussi, contre
et
la loi El
Khomri. Et puis la mobilisation dans la rue.
Comment pourrait-il aujourd'hui aller beaucoup plus loin sans se heurter à une résistance terrible?
Nous n'attiserons pas les flammes. Il faut être clair. Nous avons une notion de ce qu'est la politique. Nous avons une notion de ce qu'est le bien pour la France. Si ce qui nous présente dans certaines lois nous semble être le bien pour la France, je ne vois pas pourquoi nous nous y opposerions.
Parce que vous savez, les forces vont se lever, les corporatismes, les syndicats, la rue. Vous parliez de la France insoumise. Forcément, s'ils n'ont pas beaucoup de voix de représentants à l'Assemblée nationale, tout ça va se déplacer dans la rue. Donc ces forces-là, elles vont se lever, elles vont obstruer. Voilà.
Est-ce qu'on y peut quelque chose? C'est à lui de négocier, de voir avec ceux et celles qui sont des mélenchonistes et des syndicalistes extrémistes. Nous avons simplement à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas manifesté à l'Assemblée nationale avec des pancartes. Nous allons simplement dire, voilà, notre programme, élisez-nous sur notre programme, et puis si on a la majorité, on le fait. Si on n'a pas la majorité, eh bien on verra dans ce que nous présente M. Macron ce qui nous plaît. Mais nous n'attiserons pas les flammes à l'extérieur.
Sur l'un des sujets que Emmanuel Macron a beaucoup évoqué pendant sa campagne, la moralisation de la vie politique, jusqu'où faut-il aller selon vous? Est-ce qu'il faut aujourd'hui un vrai gros coup de balai, un grand ménage dans ce domaine, et peut-être aller jusqu'à des systèmes à la scandinave où on est d'une sévérité implacable avec l'élu, le responsable politique?
Moi je crois qu'il faut une sévérité implacable. Mais à partir du moment où les faits sont établis, vous comprenez, il faut pas... moi, je me souviens, je vous citais juste un tout petit exemple pour montrer ce que je considère. Un jour, j'étais à une télévision, au moment où Mediapart sort l'affaire de M. Cahuzac. Qu'est-ce que j'ai eu comme réaction? Je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, Mediapart n'est pas un juge Et moi, je ne sais pas. Donc, je défendrai M. Cahuzac. Je l'ai défendu. Et puis, il a avoué. Alors là, effectivement, j'ai été d'une sévérité implacable. Mais attention à ce que les juges ne soient pas les journalistes ou des officines.
Ce qui veut dire, par exemple, qu'un mis en examen ne devrait pas forcément démissionner d'une fonction ministérielle au nom de la présomption d'innocence.
Un autre exemple, j'ai remplacé Michel Roussin au ministère de la Coopération parce qu'il était mis en examen et qu'il y avait une jurisprudence baladure qui faisait qu'il devait partir. Et je lui ai dit très clairement, Michel, si tu as un non-lieu avant que j'ai fini, je te rends la place. Mais il a eu un non-lieu après. C'est terrible de se dire qu'il a eu un non-lieu. Il a eu un non-lieu, les juges. C'est terrible parce qu'effectivement, il n'était pas condamnable. Il n'avait pas trahi, il n'avait pas volé et il n'a pas été condamné. Alors c'est pour ça que moi je suis extrêmement attentif en me disant, attention, la mise en examen, ce n'est pas une condamnation. Alors, oui, carnet ou cahier judiciaire ou vierge, oui. Deux, oui, il ne faut pas que quelqu'un qui triche, vole, etc., reste.
Mais ne plus embaucher condamné. Des membres de sa famille, en aucune circonstance, ça c'est une idée qui paraît acceptable.
Oui et non. Vous savez, il y a tellement de députés et de sénateurs qui ont embauché des membres de leur famille plus ou moins éloignés.
Il y en a plein qui ont épousé leurs assistantes aussi.
Ça veut dire qu'ils ont embauché leur maîtresse avant.
Ça c'est à votre appréciation.
Mais non, mais attendez, non mais on va.
Non mais enfin, il y a des députés qui ont épousé leur collaboratrice.
Mais oui, Bartolone.
Ou leur collaborateur voilà, d'ailleurs aujourd'hui.
Bon ben, je pense qu'à un certain âge, on n'épouse pas comme ça sa collaboratrice.
Frédéric, vous m'épousez quand?
on va en parler. Hors antenne peut-être.
Hors antenne.
C'est une blague. Une réaction sur Marion Maréchal-Le Pen qui vient d'annoncer qu'elle quitterait son mandat. Donc la nièce de Marine Le Pen, elle va sans doute quitter aussi le Front National. Elle avait fait part effectivement de son souhait de quitter la vie politique. Est-ce que ça en prend le chemin et votre réaction là-dessus?
Écoutez, ça la regarde. Quand elle était élue du Front National à l'Assemblée Nationale, je l'ai croisée, j'ai pas dû échanger deux mots. C'est une femme qui défend des idées que je ne défendrai jamais, mais en dehors de ses idées, elle est sûrement très agréable, très gentille. Elle a peut-être compris qu'on ne pouvait pas défendre ces idées-là, elle a compris qu'elle devait partir, et c'est tout à son honneur si c'est ça.
Mais est-ce que ça peut préluder une crise profonde au Front National, qui a tout de même éprouvé, certains le disent à demi-mot, une déception assez vive du résultat de dimanche dernier, 33,9%, on est très loin des 40 qui étaient espérés comme une barre symbolique.
Oui, mais écoutez, je suis navré, mais je vois moi une chose simple, la progression en nombre de voix.
Ouais.
Elle a le double de voix qu'avait fait son grand-père, son père, pardon.
Son père, oui, le grand-père,
son père, je parlais de Marie-Machal. En 2002. Le double. Elle a près de 10 500 000 voix. Je respecte ces Français. Je dis simplement qu'il faut leur donner une alternative raisonnable au Front National. Une alternative raisonnable. On ne doit pas être brutal. Et Dieu sait si elle a été brutale pendant son face-à-face. On ne doit pas être brutal, on ne doit pas avoir des conceptions aussi dures, et si nous ne donnons pas d'alternative au Front National, pas au Front National, à ceux qui ont voté.
Ah oui.
À ceux qui ont voté. Non, moi je suis totalement anti-Front National. Mais écoutez, on ne va pas non plus jeter aux gémonies les 11 millions ou 10 millions de Français qui ont voté. Ce sont des Français qui ont... Effectivement, mais je crois que beaucoup l'ont dit, sont tristes, ils ont des problèmes majeurs, ils ont des craintes, etc. Il faut qu'on essaye de leur apaiser ces craintes, de leur dire, vous savez, nous pouvons prendre en charge ce que vous avez comme crainte. On peut combattre avec vous la misère.
Exemple sur l'Europe, par exemple, puisqu'on voit bien la différence de position entre...
Sauf qu'il faut convaincre l'Europe, pour l'Europe. Moi, je suis un Européen, comme François Fillon l'est.
Est-ce que cette présidentielle a révélé quand même que au moins un Français sur deux est eurosceptique, voire europhobe même?
Ça, on le sait depuis...
on le sait depuis longtemps.
Non, mais c'est beaucoup plus fort cette année.
Mais n'oubliez pas quand même...
Mélenchon, Marine Le Pen, Mélenchon,
n'oubliez pas qu'en 2005... nous pourrions. Mais, 2005, le référendum a été
même 94,
négatif.
Ça a été à un doigt.
Oui.
À deux doigts, plutôt.
Oui. Je sais pas comment. Je me souviens très bien. C'est justement à l'époque où j'ai opéré François Mitterrand.
Absolument.
Et donc nous allons en parler dans son lit à l'hôpital Cochin.
Oui, ça a été
sur le fil.
Hein ? Ça a été sur le fil. L'élection. Enfin,
l'intervention.
Non.
Ah bon,
non,
j'ai
non.
eu peur.
Non, le Maastricht. Enfin,
oui, mais bien sûr. Mais attends, 50... nous avons à convaincre pour une Europe qui soit une Europe un peu différente de celle que nous vivons aujourd'hui. C'est fondamental. C'est pour ça que nous avons notre place. C'est pour ça que nous avons des valeurs.
Alors, il faut qu'on revienne à Emmanuel Macron et à ses priorités, à ses urgences du moment. Il faut qu'il trouve un Premier ministre. Est-ce que vous avez des noms à lui suggérer
Non, pas du tout.
Et si c'était un Premier ministre
quelqu'un de chez vous
Mais attendez, ça sera qui y veut. Mais je vous ferai remarquer simplement que dans deux jours, on a la liste des 577 candidats.
En marche. Oui.
En marche.
Aux législatives.
Aux législatives. C'est fondamental. Ça veut dire qu'il n'y a pas la place pour d'autres. On ne va pas nous céder la place. Nous
découvrirez peut-être que des gens chez vous sont sur...
Non.
Là, il n'y a pas de risque.
Oh, il y en aura peut-être un ou deux qui se diront « j'ai été », etc., comme un certain nombre.
Il se passe quoi s'il y en a un, comme vous disiez tout à l'heure, qui va à la soupe ? Qui accepte
Il y va. C'est simple. On choisit. On ne peut pas être au Parti Socialiste et aux Républicains en même temps. Et Emmanuel Macron a dit, écoutez, voilà, vous vous inscrivez, vous êtes dans mon parti, vous siégez à l'Assemblée à mon parti. Il faut qu'il fasse attention, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des frondeurs. Sur les 577, il veut avoir une majorité absolue. Je ne crois pas qu'il l'ait. Mais il ne faut pas que non plus, dans cette majorité, ou relative, ou même peut-être pas, il y ait des frondeurs. Donc il va les trier sur le volet. Et donc, il faudra que ceux qui veulent aller notre parti à En Marche passent au scanner.
Mais il fait le pari, Emmanuel Macron, qu'il y aura un schisme au sein de la droite, c'est-à-dire la droite gaulliste, classique, libérale, et la droite nationale, on va dire, plus très à droite, quoi, la droite de Wauquiez et compagnie. Vous y croyez ?
Écoutez, je n'y crois absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'on se met d'accord sur un programme. Ce que j'aimerais, c'est qu'un certain nombre d'individus arrêtent de s'individualiser pour faire l'intéressant. Et je pense à Alain Juppé, qui lui, a été battu aux élections législatives à Bordeaux, a été battu aux primaires, et maintenant s'autorise à donner des leçons à tout le monde. On peut s'autoriser quand on a réussi quelque chose. Mais là, non.
Mais d'un autre côté, personne n'a réussi chez vous, là, depuis quelque temps. À part Fillon.
Écoutez, nous avons quand même eu beaucoup d'élus. Si je me souviens bien. Mais lui n'a même pas été élu. Oui. Excusez-moi. À Bordeaux, il s'est fait battre aux élections législatives par Mme Delaunay. Bon.
Tout à fait.
Oui, mais oui.
Votre scénario idéal, finalement, aux législatives, c'est de l'emporter, enfin d'être majoritaire, et d'imposer une cohabitation. C'est-à-dire donc d'imposer un Premier ministre à Emmanuel Macron et d'appliquer votre programme et pas le sien.
J'ai jamais eu de langue de bois.
Eh bien, ne commencez
pas. Je vais vous dire une chose, je ne suis pas du tout sûr qu'on ait la majorité absolue.
Non,
bon,
très bien.
Mais quand on va à l'élection, 577 élections, chacun des candidats porte dans sa musette un bâton de maréchal.
Oui.
Enfin, ils pensent tous être élus. J'espère bien, c'est formidable de faire une campagne comme ça. Tous ne seront pas élus. Et on va voir. Et
vous espérez gouverner, finalement, au rattrapage.
Oui, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Enfin, nous espérons simplement que le peuple français élira le maximum de nos candidats. Après, on verra. Je ne vais pas regarder dans le marc de café pour dire que nous aurons 290 députés. Nous sommes déjà à 200, avec l'UDI, 230 et quelques. Eh bien, voilà, on va voir. Ceux qui sortent, j'espère qu'ils ne sont pas battus, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ce sont les Français qui vont décider. Ce n'est pas la même chose qu'une élection présidentielle. Comprenez-le. L'élection présidentielle, on vote pour un homme. Et la France entière vote pour un homme. Là, on vote pour un homme dans une circonscription.
Merci beaucoup.
Merci
Bernard Doré. Donc, il ne croit pas à l'homéopathie. C'est de la poudre de perlimpinpin, vous diriez. Parce que c'est la phrase.
Non, mais là, on n'a pas le temps de se lancer dans un autre débat.
Non, bien sûr.
Vous allez mettre nos téléspectateurs et nos auditeurs en appétit, mais on ne pourra pas répondre
à leur curiosité. Bien sûr. Donc, c'est une conclusion. Merci Frédéric.
Merci.
Et merci Audrey Yatoni et Pauline Hellman d'avoir préparé cette émission. Merci.